Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle de la dépression du postpartum, en particulier chez les papas. On parle souvent de la dépression du postpartum chez les mères, chez les jeunes mamans, mais beaucoup moins chez les pères. Donc aujourd'hui, témoignage de Thibaut qui a vécu cette dépression du postpartum, et puis juste après, nous serons avec une psychiatre, docteur Sarah Tebeka.
C'est vrai que ça fait 7 ans que je présente cette émission et qu'on l'a à peine effleuré, ce sujet. Et pourtant, c'est tellement important. C'est la dépression du postpartum dont on va parler ce matin avec vous, Thibaut. Bonjour.
Bonjour, Agathe.
Merci, c'est bien qu'on entende cette voix parce que c'est tellement rare. Après la naissance de votre fils Robin, il y a 2 ans et demi, un bébé que vous vouliez absolument, qui était ultra attendu, etc. Vous avez souffert pendant plusieurs semaines d'une dépression du postpartum. Donc, c'est important, évidemment, d'entendre la voix d'un père. On en a déjà parlé via la voix de la mère, mais il faut du courage pour en parler ce matin. En parlant de Robin, à quel moment est-ce que vous avez eu envie de fonder une famille ? C'est venu comment ?
On en avait envie tous les deux. Ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble et c'est un vrai projet de couple qu'on avait envie de mettre en œuvre. Et donc, du coup, on a tout fait pour...
Et qui est arrivé assez vite.
Très vite. Voilà. À partir du moment où on a décidé d'avoir l'enfant, Robin est arrivé. Enfin,
elle est tombée enceinte.
Elle est tombée enceinte très rapidement.
Comment vous avez réagi à l'annonce du fait qu'elle était enceinte ?
Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur tout de suite. Alors, il se trouve qu'on venait d'emménager dans un nouvel appartement, 2 pièces. Elle me l'annonce le jour où on emménage. Et en fait, ça fait peur. J'ai pleuré en mode... Et c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, ça fait peur.
C'est vrai.
Alors que j'en avais envie.
Mais vous l'avez exprimé.
Oui.
Ça, c'est déjà bien quand même.
C'était important de le dire.
Vous aviez une préférence pour un garçon ou une fille ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous préoccupait ?
Alors, j'ai un rapport particulier avec la paternité, puisque je n'ai pas vu mon père, moi, pendant 20 ans. Donc, j'avais envie d'avoir un garçon pour vivre des choses avec lui, pour vivre... Moi, je suis passionné de l'OM, j'aime la musique, j'ai fait du rugby. J'avais envie de partager ces choses-là avec lui, ce que moi, je n'avais pas vécu avec mon père.
Et vous aviez besoin de réparer quelque chose, un peu.
Peut-être. Je l'ai vécu avec ma mère, mais pas avec mon père. Et j'avais besoin de ce lien-là. Après, je m'étais préparé quand même à avoir une fille et finalement, je n'étais pas complètement... déçu à l'idée d'avoir une fille, mais je voulais un fils.
Alors, comment se passe la grossesse de votre femme ? Comment est-ce que vous la vivez en tant que futur papa ? Est-ce que vous arrivez à trouver votre place ? Est-ce que vous vous sentez bien ?
Alors, la grossesse, ça se passe super bien. C'est vrai qu'on était en plein confinement. Enfin, c'est tombé à ce moment-là. Et on était dans notre petite bulle, dans notre petit cocon. Tout se passait super bien. La grossesse de ma femme s'est super bien passée. Il n'y avait rien à redire, elle était heureuse, on était heureux dans notre petite bulle, dans notre petit jardin. Voilà, les journées passées, on était apeurés par le Covid, mais il y avait toujours la perspective de l'enfant à venir qui nous réjouissait. Quoi.
Il y avait le côté cocon, justement, la possibilité d'être tous les trois, en fait. Cela dit, 3 semaines avant la naissance de votre fils, vous avez eu une très mauvaise nouvelle.
Oui, alors pendant le Covid, en fait, moi, je regardais un petit peu sur Internet, mon père étant âgé... Forcément, on regarde un peu pour les gens qui sont...
Mais là, vous le côtoyez à votre...
Non, plus du non, tout. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de
vous
lui. Je l'avais revu quand j'avais 20 ans,
mm-hmm.
une fois, histoire de me dire, bon, ben voilà, si jamais il disparaît, c'était la dernière fois que je l'ai vu, j'avais échangé 2-3 mails avec lui, et puis c'était fini. Et je me suis dit, quand même, je vais vérifier. Donc, je suis allé sur les réseaux sociaux, et puis j'ai appris qu'il était mort. Ça faisait 1 an et demi. C'est son ex-compagne qui publie ce message sur les réseaux sociaux en répondant à quelqu'un. Au fait, comment va-t-il ? Ben, et donc moi, j'ai pris le choc. Pris le choc.
Et en plus, vous avez des demi-frères et des demi-sœurs.
Oui, j'ai 3 demi-frères. Et eux non plus n'ont pas été informés. J'ai écrit à sa femme pour savoir. Et c'était sa volonté. Il ne voulait pas nous le dire.
Un sacré choc de l'apprendre
donc
de cette façon.
Donc ça rajoute un petit peu à la paternité. On est à 1 mois de la naissance de Robin.
Ouais. Donc là, vous avez justement quoi, ce père qui a posé tant de problèmes dans votre vie, tant de problèmes relationnels, et en même temps, cette pulsion de vie qui va arriver. Donc déjà, vous êtes dans, je dirais, une dichotomie. Alors vous allez devenir père, vous devez digérer l'annonce de la mort de votre propre père. Est-ce que déjà, dans ce contexte, vous arrivez à vous sentir un peu papa, ou est-ce que c'est flou ?
Alors moi, je me sens papa. Je me sens papa, j'ai écrit pendant le confinement notamment beaucoup. J'ai écrit à Robin pour qu'il puisse lire plus tard tout ce qu'on vivait, tout ce qui se passait, toutes mes émotions, tout ce que moi je ressentais, la mort de mon père aussi. Et il y a un moment donné où dans ce que j'écris, dans mon carnet, j'écris « je suis prêt ». je suis prêt à devenir papa.
Donc vous vous sentiez prêt?
Je me sens prêt.
Alors, votre femme, elle a accouché en plein Covid, puisque c'était en mai 2020. Ouais. Comment ça s'est passé dans ce contexte, alors, la rencontre?
On vient juste de sortir du confinement, et on est le 20 mai, et ben, ça se passe, c'est compliqué, parce que moi, je ne peux pas assister à son accouchement. Le matin, je me fais tout beau, je mets ma petite chemise, on part très tôt à la maternité. Moi, je comprends pas trop. Hein. Je suis le mouvement et puis voilà. Et puis là, on me dit bah non, en fait, vous rentrez pas. Donc j'attends sur le parking jusqu'à 14h30 où ma femme me dit bah rentre à la maison, va faire des courses. Je rentre une première fois, je reviens à la maternité toujours sur le parking. Il fait très chaud, j'en profite pour réparer les phares de la voiture. Enfin bref, voilà une histoire basique dans le stress, dans l'attente de ça. Et on me dit vous pouvez rentrer qu'à partir d'un certain moment. Et ma femme me dit à 18h, rentre à la maison, ça ne sert à rien, je n'accoucherai pas avant 22h, on m'a dit. Donc
vous êtes rentré?
Je rentre.
Mais la maternité vous a appelé peu de temps après?
J'ai à peine le temps de me poser.
C'est ça.
Que la maternité m'appelle, ça ne se passe pas bien monsieur, il faut que vous veniez.
Donc choc quand même un peu.
Le gros choc. Oui. Gros choc, je pars en courant.
Et surtout qu'on ne vous dit pas ce qui se passe, on dit juste ça ne se passe pas bien.
C'est ma femme qui m'envoie un message avant de partir, en fait, elle a envoyé un message en disant je vais pas en césarienne.
Ah, d'accord.
Et là, je ne comprends pas. Enfin, j'ai tracé, j'ai roulé plus vite que ce que je n'aurais dû, j'ai couru, j'arrive à la maternité. Et là, bah, en fait, on me dit, vous ne rentrez pas. Parce qu'on me passe le thermomètre et on me dit, vous avez 39,5, c'est période de Covid. Et là, il y a une collègue qui lui dit, bah, attends, t'as vu, il fait chaud, il faisait 30 degrés ce jour-là, il a couru.
Oui, c'est rentrer, biaisé, quoi. Forcément.
Voilà. J'avais très chaud.
Oh, mon pauvre.
Et là, je rentre, j'arrive, je traverse le couloir et tout le monde me dit félicitations. Et moi, je me demande pourquoi félicitations. Enfin, ma femme est partie en césarienne, ça fait 10 minutes qu'elle m'a envoyé le message, ça n'arrive pas si vite. Enfin, moi, je ne comprends rien. Et là, on me présente un bébé, on le met dans les bras. Et...
On ne vous dit pas, tiens, bah, on ne vous explique pas.
Je pose
fait,
la question, je dis c'est mon fils. Et là, je suis tombé un petit peu, hein, m'asseyant sur le fauteuil, ouais. Complètement bouleversé en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas dit, voilà, votre femme, non. Ça y est, la césarienne est terminée, vous, c'est le moment de rencontrer votre bébé. Bon, évidemment, c'était un moment de tension terrible pour les équipes soignantes, hein, donc tout était différent de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Thibault, quand on vous a mis votre fils dans les bras? Ce tête-à-tête, il s'est passé comment?
La première chose que je me suis dit, c'est que je suis mortel. Il sera là pour mon dernier souffle. Et ça, c'est dur un petit peu à le voir, mais c'est la première fois en fait où je me dis, ben voilà, je vais partir et il sera là, quoi. Mmh. Et je l'ai pendant 4 heures dans les bras, c'est très difficile parce que je ne vois pas ma femme, on essaye de faire des visios, mais elle est en salle de réveil et elle n'arrive pas bien à le faire parce que ça ne capte pas, enfin, elle ne comprend pas tout ce qui se passe. Et du coup, ben, c'est compliqué, quoi. Moi, je l'ai 4 heures dans les bras, le bébé remonte, et moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas jusqu'au lendemain. Donc, j'ai cette frustration de ne pas avoir vécu ça à trois. On a tous les deux cette frustration de ne pas avoir vécu ça à trois.
Est-ce que, quand vous rentrez à la maison, vous parvenez à trouver vos marques? Parce que je sais que votre femme, vu le contexte, a demandé à sortir très vite de la maternité. Est-ce que vous vous sentez papa? Est-ce que vous vous sentez utile? Est-ce que c'est naturel?
C'est dur. C'est dur. Ma femme prend tout de suite le lead. Et moi, je suis. Je suis parce que j'ai l'impression d'être incapable de faire quoi que ce soit. Elle me dit de changer la couche comme ça, je le fais. Elle me dit de faire ça, je le fais. Mais je suis incapable de faire les choses, en fait.
Vous vous sentez incapable?
Je me sens incapable. Mmh. Elle me dit, tu es capable, tu y arrives. Mais moi, je me sens incapable. Je n'ai pas le pouvoir d'y arriver. Et je me dis, mais en fait, tu ressembles à ton père, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce que je n'ai jamais voulu faire, en fait. Je me dis, mais ça va t'arriver.
En fait, à partir du moment où Robin est venu au monde, ouais. Vous avez mis toute votre vie en perspective, c'est-à-dire déjà la vie en général, avec la mort, et puis aussi la perspective de ce que vous avez vécu, vous, avec votre propre père. Quand est-ce que vous avez compris que quelque chose n'allait pas?
Très vite. Très vite, je sens, à partir du moment où je me pose la question et je me dis, mais tu es en train de faire comme ton père, là. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et qu'est-ce que vous ressentiez? Une immense tristesse?
J'étais vide.
Vous pleuriez de temps en temps?
Oui, ça m'arrivait de pleurer, en tout cas de ne pas comprendre ce qui se passait. Enfin, j'étais vide, je n'avais pas de ressentiment. Je me retrouve face à un être qui pleure, qui mange, qui dort.
Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à créer le lien non plus?
C'est ça, je n'ai pas le lien qui vient. Il y a pas le... Moi, je m'attendais tout de suite à ce qu'il me sourit. Enfin, c'est très bête, mais voilà, je découvre tout ça, quoi. Enfin, et je suis dépassé, en fait, par tout ce qui se passe. Et tout ce que j'avais imaginé n'arrive pas, en fait. Pas tout de suite, en tout cas.
Oui, c'est-à-dire que vous aviez fantasmé le lien, comme tout le monde, comme tous les parents, en fait. On fantasme quelque chose, et forcément, c'est différent, c'est jamais ce qu'on sait.
D'être face à un mur, je peux le dire. Enfin, l'impression, en tout cas, d'être face à un mur, et il faut s'en occuper.
Et c'est votre responsabilité.
Et c'est notre responsabilité, mais j'y arrive pas.
Et c'est ça. Est-ce que vous avez pu en parler avec votre compagne, ou au moins, est-ce qu'elle s'est rendue compte de ce que vous traversiez ?
Elle s'en est très vite rendue compte. C'est ce qui m'a un petit peu aidé, je pense, enfin, beaucoup aidé même. Je me rappelle sur une aire d'autoroute où je me suis effondré, et je lui ai dit, j'arrive pas. Je peux pas, j'arrive pas. Je sais pas ce que j'ai, je comprends pas. C'était 15 jours après. Je dis, je sais pas, je peux plus. Et donc, elle m'a soutenu. Elle m'a porté, elle a été là, elle a été hyper présente, et c'est ce qui nous a sauvés, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je m'en serais sorti tout seul, mais c'est en tout cas ce qui m'a permis de me sentir bien, et j'en ai tout de suite parlé. J'en ai parlé avec elle, j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec mes beaux-parents, avec mes proches, mes amis. Et voilà, j'avais besoin d'en parler.
Oui, comme vous avez formé une équipe, en fait,
tous ensemble. C'est ça.
Et à quel moment le lien s'est fait ? Alors, quand est-ce que ça a commencé à aller mieux ?
Assez vite quand même, mais au bout de 3 mois, moi j'ai commencé à reprendre le boulot, donc ça a été une sorte de soupape un petit peu. Mm-hmm. Et puis lui, il a commencé à rire, à sourire, et puis là je me suis dit, c'est pas possible quoi.
Vous avez fondu.
Oui, complètement.
Vous êtes fait accompagner quand même par un psy
non.
ou pas du tout ?
Non, c'est ma femme me l'a conseillé, mais j'ai pas voulu franchir le pas. Je me suis dit, on va attendre, on va voir. Je me connais, je sais que je suis capable de rebondir. Et
c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est génial.
Aujourd'hui, tout se passe bien ?
Aujourd'hui, c'est super. C'est encore la dernière fois, je devais aller boire un verre et j'ai dit à mon pote, non, je suis désolé, 19h30, là, il faut que je rentre pour faire un bisou à mon fils. Quoi.
Bonjour Sarah Tebeka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes psychiatre et chercheuse spécialisée en psychiatrie périnatale, et c'est à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Alors, c'est vraiment mon expérience empirique, que ce soit les mères ou les pères, on a toujours l'impression que ceux qui vivent une dépression du postpartum, c'est parce qu'ils ont eu déjà dans leur propre histoire, quand même, je dirais, des chocs ou des traumatismes. Est-ce que ça se vérifie à chaque fois ? Est-ce que ça a pu jouer chez Thibault ?
Alors, ça se vérifie souvent, effectivement. C'est en tout cas des facteurs de vulnérabilité importantes. Et chez Thibault, à la fois l'histoire familiale, le fait qu'il y ait un père distant, à la fois le deuil qu'il apprend en fin de grossesse, etc., ont pu bien sûr impacter et rendre encore plus vulnérable un moment de vulnérabilité déjà pour tous les pères.
Et c'est là qu'on a l'impression qu'il l'a très bien dit d'ailleurs, Thibault, ça met sa propre histoire en perspective tout de suite. Et même les cycles de la vie, quoi. Mmh. Toutes les questions existentielles qu'on se pose peut-être de façon un peu superficielle, le fait d'avoir un enfant, tout à coup, ça nous plonge dans cette réalité-là.
C'est évident, la parentalité et la paternité en l'occurrence, c'est un moment où on vient se poser des questions qui sont un peu sous-jacentes tout le temps. Et là, tout d'un coup, on est confronté à cet enfant qui arrive. Il l'a très bien expliqué, il va être là jusqu'à mon dernier souffle. Et donc, ça met effectivement en perspective un peu toute une vie.
Ah, c'est dur la vie.
Alors, Mathis vous demande ce qui explique qu'un jeune papa puisse souffrir d'une dépression du postpartum. Ça, vous venez quand même un petit peu d'y répondre. C'est le bouleversement du quotidien, entre autres. Mais il vous demande si c'est fréquent.
Et oui, c'est hyper fréquent. On en parle très peu. Et vraiment, c'est super de faire cette émission. Je pense que c'est très important. Ça concerne 6 à 10 % des pères qui font une vraie dépression, comme Thibault l'a très bien raconté. Donc, qui vient vraiment impacter le quotidien, handicaper le père dans son lien, mais aussi dans son travail, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, etc. Donc, c'est extrêmement fréquent après la naissance d'un enfant.
Et pourtant, les jeunes pères n'en parlent pas entre eux. C'est pas du tout un sujet entre nous, là, on n'en parle pas.
C'est hyper difficile. Déjà, la dépression maternelle, on en parle de plus en plus et ça devient un sujet un peu moins tabou. Chez les pères, on a encore un peu de boulot à faire pour que ce soit moins stigmatisant et que ce soit possible de l'évoquer de façon plus spontanée.
Et parce que les pères ont en plus le devoir culturel, et vivement qu'on casse définitivement tout ça, mais de protéger, d'être fort, etc. Et nous, on a l'injonction d'être heureuse.
Oui,
en gros, on part de là. Alors, la vérité, évidemment, on sait qu'elle est loin d'être
celle-là. Puis on doit savoir bricoler aussi.
Oui, c'est vrai.
Ça, je voulais le souligner. On a une question envoyée en vidéo de Léa pour vous.
Bonjour, la maison des maternelles. Mon conjoint souffre de dépression postpartum depuis la naissance de notre fille il y a 11 mois, ce qui nous a poussé sur les conseils de la PMI à être suivi en unité parent-bébé où nous sommes toujours actuellement. Il ressent une certaine forme d'abandon de ma part et une certaine forme de jalousie vis-à-vis de notre fille. Comment l'aider à dépasser ce sentiment ? Merci pour votre réponse.
Alors effectivement, c'est sûr que, comme vous l'avez mentionné, c'est un bouleversement important. Quand il y a un nouvel enfant qui arrive, un nouvel membre de la famille, il faut que chacun puisse trouver sa place. Et ça, ce n'est pas instantané. Et il peut y avoir le sentiment, à juste titre, d'être un peu abandonner, peut-être le terme est fort, mais en tout cas qu'il y ait moins d'attention et moins de temps consacré au conjoint. Et donc ça, c'est une réalité. Je crois que là, ce que rapporte Léa, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se faire accompagner. Et là, visiblement, c'est ce qu'ils ont fait par la PMI dans un premier temps et puis en unité parent-enfant actuellement, ce qui est vraiment la meilleure solution pour pouvoir rassurer tout le monde et laisser le temps à chacun de prendre sa place.
Oui, c'est ça. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui doit se préparer pendant la grossesse, en fait, cette idée de devoir tout rééquilibrer. D'ailleurs, à chaque enfant, on a des nouveaux équilibres à trouver. Et ça serait bien qu'on soit un peu plus prévenu. C'est notre rôle dans la maison des maternelles de le faire.
Laurie vous demande quels sont les facteurs de risque d'une dépression du postpartum.
Alors, c'est des maladies multifactorielles. Donc, il y a plein de facteurs de risque différents. Mais on peut garder en tête que le fait d'avoir déjà vécu des épisodes dépressifs par le passé rend évidemment plus vulnérable. Le fait d'avoir des facteurs de précarité, d'isolement, de manque de soutien, c'est aussi des facteurs très importants. Et puis, de façon plus générale, d'avoir des facteurs de stress, des facteurs, des événements stressants, que ce soit professionnel, que ce soit, comme dans le cas de Thibault, un deuil, que ce soit un déménagement, que ce soit des conflits importants. Tout ça, c'est des facteurs qui rendent vulnérable encore plus dans cette période-là.
Et cet accouchement qui ne se passe pas comme prévu, par exemple, pour le père, ça peut être un facteur déclenchant ?
Oui, bien sûr. C'est sûr qu'un accouchement qui ne se passe pas comme prévu ou une inquiétude pour la santé de l'enfant, que ce soit au cours de la grossesse ou une fois que l'enfant est né, c'est des facteurs de stress majeurs qui viennent encore plus en rajouter.
Terence dit « Je m'aperçois que j'ai vécu une dépression du postpartum lors de la naissance de mon second fils. C'était il y a 3 ans et à l'époque, je n'ai pas osé en parler. Vers qui se tourner ?» C'est vrai que le dépistage, qui plus est pour les hommes, n'est pas simple.
Et oui, on estime que chez les femmes, il y a 50% des femmes qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne sont pas dépistées. Chez les hommes, les taux sont encore plus importants, entre autres parce qu'ils ne sont pas dans le circuit de soins finalement. Ils ne rencontrent pas leur sage-femme, leur gynéco régulièrement. Souvent, ce n'est pas eux qui accompagnent chez le pédiatre encore dans la majorité des cas. Donc, ils rencontrent beaucoup moins fréquemment les soignants qui peuvent les dépister effectivement.
Donc, éventuellement, c'est le généraliste. Mais encore, il faut aller voir le généraliste, quoi.
Et voilà, il faut vraiment pouvoir s'autoriser à aller rencontrer son généraliste et faire le point. Et je crois que les conjoints et l'entourage ont un rôle aussi très important à jouer d'alerte en disant « Là, je ne te trouve pas comme d'habitude, ce serait peut-être bien que tu ailles voir quelqu'un pour en discuter. » Et le généraliste est une excellente porte d'entrée.
Une question de Vivien, il vous dit « Ma femme est enceinte de 6 mois de notre premier enfant et j'ai du mal à trouver ma place pendant la grossesse. Est-ce que je suis plus à risque, du coup, à la naissance, de faire une dépression paternelle ?»
Alors non, alors c'est très classique ce qu'il décrit, c'est-à-dire que c'est vrai que pour les pères, ce n'était pas le cas de Thibault, mais c'est classique. Ils peuvent avoir du mal au cours de la grossesse à s'impliquer, à se sentir père. C'est quand même un truc qui peut venir secondairement avec l'arrivée de l'enfant et ça ne rend pas plus vulnérable. Après, actuellement, il y a quand même une dynamique qui, je pense, est très positive d'impliquer de plus en plus les pères au cours de la grossesse, avec l'entretien prénatal précoce, avec les suivis de grossesse qui peuvent se faire avec les pères, évidemment, et puis les cours de préparation à l'accouchement où ils sont quand même largement conviés.
Ouais. La reprise du travail, ça peut être libérateur, non ? Que ce soit pour les pères ou les mères ?
C'est un peu qui tout double. Le travail, ça peut être hyper libérateur, effectivement, parce qu'on sort un peu de cet enfermement à la maison où on a du mal à trouver sa place. Et là, on retrouve sa fonction, sa place, et c'est confortable, on reprend ses marques.
Tout en étant culpabilisant, j'imagine.
Ça peut être,
on va mieux au boulot, on se dit... Ouais.
Un facteur de stress important, parce qu'il y a cette culpabilité d'abandonner le domicile et la mère avec le jeune bébé. Et aussi parce que le travail peut être un facteur de stress très important. On ne peut pas avoir la liberté qu'on souhaite, on peut être sous pression. Donc ça peut finalement... Et je crois que le rôle du monde du travail est vraiment d'avoir conscience que les pères comme les mères sont vulnérables à ce moment-là et qu'il faut plutôt les choyer.
Yanis nous dit « J'étais investi pendant la grossesse, mais je n'ai pas pu être présent pour la césarienne et j'ai du mal à me sentir père. Comment mieux prendre en compte la place du père à l'accouchement ?» Question compliquée, sachant que vous avez 30 secondes pour répondre.
Il y a une dynamique actuelle qui est vraiment de prendre de plus en plus en considération la place du père. Peut-être qu'un des axes, c'est bien que les pères soient prévenus en amont, comme les femmes le sont, que s'il y a une complication, en particulier une césarienne en urgence, ils ne pourront pas être présents, mais que ça n'empêche pas derrière de rattraper les choses.
Merci docteur Sarah Tebeka, merci à Thibaut et merci à vous d'avoir écouté le podcast des maternelles. N'hésitez pas à le partager autour de vous si ça peut aider dans votre entourage. Ciao tout le monde.